Retrouvez la musique d'Inter dans toutes nos émissions et sur l'appli France Inter.
France Inter, il est 19h. Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La FNSEA et les jeunes agriculteurs prêts à tourner la page de la crise qui dure depuis plusieurs mois. Mais la Confédération paysanne estime au contraire que le compte n'y est toujours pas. Le ministre Marc Fesneau dit avoir du mal à comprendre l'attitude de certains syndicats. Vous l'entendrez. Nous irons en Espagne où des milliers de sympathisants socialistes ont imploré le Premier ministre Pedro Sanchez de ne pas démissionner. Explication à suivre. Nous serons aussi à bord du Belém, ce trois mâts qui a quitté la Grèce ce matin en emportant la flamme olympique vers le port de Marseille. Et vous, quelles sont les fautes d'orthographe que vous auriez faites ? Aujourd'hui avait lieu la finale nationale de la grande dictée du sport. Reportage de Faustine Calmel à suivre. En rugby, c'est le match du jour. France-Angleterre à Bordeaux, dernier match du tournoi féminin des Six Nations. Seconde mi-temps et les Anglaises mènent en ce moment 35 à 14. Et puis le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta. Le plus instable sera pour l'est du pays.
Oui, parce que les orages vont se décaler vers ce secteur, vers l'est. Ce sera plus calme, mais encore bien nuageux en revanche à l'ouest.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
Voici donc la dernière salve de mesures gouvernementales censées clore la crise chez les agriculteurs. On notera pêle-mêle les 25 meilleures années prises en compte pour la retraite, des exonérations partielles d'impôts pour les agriculteurs les plus endettés, la Banque publique d'investissement, la BPI, prête à garantir les emprunts. Pour la FNSEA, comme pour les jeunes agriculteurs, les deux principaux syndicats agricoles, le compte y est, même s'ils suivront de près la concrétisation de ces dernières promesse. A l'inverse, pour la coordination rurale, le compte n'y est toujours pas. Patrick Legras, le porte-parole de cette coordination.
La crise aujourd'hui ne va pas s'arrêter avec les mesures qui viennent d'être faites. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui des bassines. Une centaine de projets, basés sur quoi ? Sur qui ? 100, c'est quoi ? C'est un chiffre. Peut-être qu'il en faut 80, peut-être qu'il en faut 120. C'est-à-dire qu'on est encore sur des réglementations basées à Paris, sur un dossier aujourd'hui généraliste, où on se dit, allez, on en fait 100. Bon, ça devrait aller. Et il n'y a toujours pas l'échange terrain. Et ça, tant que les gens et les politiques ne descendront pas sur le terrain pour dire on le fait ensemble et qu'est-ce qu'il faut et à quoi on répond, parce que sans, ça va peut-être convenir, ça va peut-être pas convenir, mais ce qui est certain, c'est pas possible qu'on sorte ça du chapeau parisien.
Voilà, le compte n'y est pas, vient donc de dire ce syndicat agricole, une position qu'a du mal à comprendre le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
Les défis, on n'a pas parlé des défis climatiques. Mais ils sont immenses, il va bien falloir qu'on accompagne nos agriculteurs au travers des politiques européennes ou des politiques nationales. Donc c'est à la fois du temps court et du temps long cette affaire-là. C'est une crise qui datait, au fond, qui est la sédimentation de difficultés connues depuis 20, 25 ou 30 ans. Là, on a changé de logiciel, au fond, dans notre regard sur ces choses-là, et je pense qu'on a posé de bonnes bases pour réouvrir des perspectives à l'agriculture, parce que le sujet, c'est quand même de donner envie à des jeunes de s'installer.
Marc Fesneau, qui était du voyage aujourd'hui dans la Manche avec Gabriel Attal. Autre dossier suivi de près par le gouvernement, la mobilisation pro-palestinienne et le blocage hier de Sciences Po Paris, soutenu par la France Insoumise. Gabriel Attal a dénoncé ce matin des dérives d'une minorité agissante et dangereuse, une minorité qui veut imposer l'idéologie venue d'outre-Atlantique, a commenté le Premier ministre. D'ailleurs, à Boston, aujourd'hui, une centaine d'individus, considérés comme des manifestants pro-palestiniens, ont été interpellés sur le campus d'une université de Boston. Donc, leur campement a été évacué par la police anti-émeute. À trois mois du début des Jeux Olympiques, la flamme est désormais en train de naviguer pour 12 jours en Méditerranée, à bord du Belém. Ce trois-mâts du 19e siècle, il a quitté la Grèce ce matin. Cap sur le vieux port de Marseille, où 150 000 personnes viendront accueillir la flamme le 8 mai. À bord du Belém, donc, parti ce matin, outre l'équipage professionnel, 16 jeunes ont été recrutés pour cette traversée. Des jeunes au parcours souvent chaotique. Et notre envoyé spécial, Jérôme Val, a assisté ce matin en Grèce à leur embarquement à bord du Belém.
Bienvenue, ravi de t'accueillir à bord.
Avec leur paquetage sur le dos, les 16 apprentis marins prennent leur quartier à bord du voilier. Comme Sean Caillé, 17 ans, c'est la première fois qu'il prend la mer après une enfance passée entre foyer et famille d'accueil.
Pour montrer que même si on a eu une enfance difficile et bien on peut faire des choses extraordinaires.
Mais cette odyssée à travers la Méditerranée n'a rien d'une croisière. Ils aideront à toutes les tâches pour la navigation. Yacine Nassa et Wari Belkouane sont originaires de Marseille.
On va faire déjà tout ce qui va être manœuvre. On va participer à la vie d'équipage, on va s'assurer au bien fonctionnement du bateau.
C'est difficile de vivre une vie de matelot, de se réveiller à 4h du matin et d'enchaîner sa journée, c'est super difficile. J'espère tomber sur le quart de « je m'endors à 4h » et je me réveille à midi parce que c'est la vie d'artiste.
Mais en plus, ils auront les yeux rivés aussi sur l'invité de marque du Bélem, la flamme olympique, Éléonore Budac, 20 ans, vient de la banlieue de Nantes.
Ça m'arrivera qu'une seule fois et on est très fiers. C'est la vision de la France à l'international, c'est la vision des jeunes à l'international, c'est super important. Et on est beaucoup critiqués en ce moment sur l'organisation des JO. Là, c'est le moment de montrer que mais non, ça va le faire et pourtant on est jeunes, on va le faire.
Avec une mission, conduire tout le monde et la flamme à bon port à Marseille le 8 mai.
Et aujourd'hui à Paris, un hommage familial a été rendu à un ouvrier malien mort il y a un an, écrasé par un camion de chantier lors de l'aménagement du bassin d'Austerlitz à Paris. Travaux destinés à rendre la Seine baignable pour les Jeux Olympiques. Sa famille et ses proches donc se sont réunis aujourd'hui sur le lieu du drame pour réclamer, disent-ils, reconnaissance et justice. Une adolescente de 15 ans s'est tuée aujourd'hui en passant à travers le toit d'une usine désaffectée à Unieux dans la Loire. Une autre fille de 17 ans est grièvement blessée dans cette même chute. Les deux victimes sont des pratiquantes de ce qu'on appelle l'urbex, l'exploration non autorisée de friches urbaines. Deux autres jeunes qui les accompagnaient, choqués par l'accident, ont été pris en charge par les secours. Trois jours après une première vidéo, le Hamas vient de publier une deuxième vidéo d'otages. On y voit donc deux otages israéliens enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Cette nouvelle vidéo n'est pas datée et elle intervient sur fond de négociations. Aujourd'hui, négociations sous médiation qatari et égyptienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza, en échange donc de libération d'otages. Non, Pedro, ne t'en va pas. C'est en Espagne. Ils ont été cet après-midi des milliers de sympathisants socialistes a imploré le Premier ministre Pedro Sanchez de ne pas démissionner. Un départ auquel le Premier ministre espagnol dit pourtant réfléchir depuis l'ouverture d'une enquête préliminaire visant son épouse pour trafic d'influence et corruption. Le Premier ministre socialiste devrait annoncer sa décision lundi. À Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
La journée est historique pour les socialistes espagnols. Ce matin, le parti a tenu un comité fédéral et pour la première fois, le président des socialistes, Pedro Sanchez, n'était pas présent. Ses camarades, à l'image de la vice-présidente du gouvernement, Alejandra Montero, ont tenu à lui montrer leur soutien sans faille.
Président, reste. Pedro, reste. Nous avons besoin du meilleur leader, du plus courageux, du plus énergique, du plus déterminé et du Pedro le plus humain. Courage.
À l'extérieur du siège du Parti Socialiste Espagnol, les militants se sont donné rendez-vous aussi ce matin. Aucun d'entre eux ne veut que Pedro Sanchez s'en aille et ils sont venus par milliers des quatre coins de l'Espagne pour lui dire haut et fort. Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé une plainte déposée contre sa femme, basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. Les militants socialistes comme José Antonio en sont convaincus et appuient à 100% Sanchez et sa femme.
Je suis venu soutenir le président Sanchez pour qu'il continue, qu'il ne parte pas. Courage, il fait du bon boulot et l'Espagne a besoin de lui. Je n'ai aucun doute, il va tenir. C'est un homme très fort.
C'est vrai que Pedro Sanchez a toujours fait preuve d'une grande capacité de résistance, mais mercredi dernier, il avait l'air particulièrement abattu dans l'hémicycle. Les socialistes espèrent que cette fois-ci, il ne va pas jeter l'éponge.
Reportage de Marie-Hélène Ballestero. La guerre en Ukraine, elle passe aussi par une bataille de l'énergie. L'Ukraine affirme avoir frappé deux raffineries de pétrole russes. Et de son côté, la Russie a lancé aujourd'hui une nouvelle attaque massive contre des sites énergétiques, notamment des centrales électriques ukrainiennes. Par ailleurs, l'Ukraine accuse la Russie de vouloir anéantir son réseau ferré pour bloquer l'acheminement de l'aide internationale. La bijouterie Cartier reconnaît une erreur d'étiquetage sur une paire de boucles d'oreilles. Sur Instagram, le prix affiché n'était que de 28$ au lieu de 28 000$. Un client mexicain a immédiatement passé commande, mais la maison Cartier a refusé de laisser partir les bijoux pour ce prix dérisoire. Eh bien, un procès vient de donner raison à l'acheteur qui a donc finalement reçu ces deux boucles d'oreilles Cartier pour 28$, donc, au lieu des 28 000$. Bonne pioche. C'était aujourd'hui la finale nationale de la grande dictée du sport sous la prestigieuse coupole de l'Institut de France, avec un texte écrit et dicté également par l'académicien Éric Orsenna. Dicté suivi, stylo en main, par Faustine Calmel.
Sous la haute coupole de l'Institut et le regard affûté de plusieurs académiciens, les candidats s'installent dans leur fauteuil de velours.
Aujourd'hui, nous avons fait descendre très sensiblement la moyenne d'âge de l'Institut de France.
Le plus jeune a 10 ans, ce sont là des élèves de primaire, collège, lycée, quelques adultes. Éric Orsenna prend place au pupitre.
Ça y est, point d'exclamation.
Petit flottement au démarrage.
Je répète à chaque fois les phrases, vous voulez ? Ah bah, comme attends, t'en fais pas, on va s'arranger.
Le texte se veut vif, sportif, incisif aussi envers la ministre des Sports, ancienne joueuse de tennis.
Comparé au marathon, votre tennis, c'est peinard.
Réaction à l'issue avec Myriam, Clarisse et Nathan.
Un peu compliqué, comme tachycardie, je savais pas que ça existait. Délicat quoi, j'ai bien réfléchi, mais bon.
Beyoncé, je savais pas vraiment comment écrire.
On recommence. Les oiseaux gazouillent, même si moins que Beyoncé, point.
Niveau exigeant que défend Éric Orsenna dans le sport comme en littérature.
Moi, si vous êtes prisonnier des écrans, sédentaire, et quand vous êtes prisonnier de votre timidité pour jouer avec les mots, votre vie, elle est beaucoup moins grande que vous pourriez l'avoir. Alors que la culture, c'est être plus que soi-même.
Se dépasser et bouger son corps comme remuer ses méninges, conclut celui qui est à la fois marin et prix Goncourt.
Voilà, et encore fallait-il savoir écrire le nom de la chanteuse Beyoncé avec un E accent aigu. Un mot de tennis avec une victoire de Rafael Nadal au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid. À bientôt 38 ans, l'Espagnol qui s'interroge sur la poursuite de sa carrière, vient de battre le 11e mondial, l'Australien Alex de Minaur. Avant de rejoindre le rugby et ce France-Angleterre, dernier match du tournoi Destination Féminin, toujours 35-14 pour les Anglaises, le football avec le PSG qui pourrait être consacré dès ce soir champion de France. Après son match à domicile face au Havre, il suffit d'un seul point aux Parisiens pour décrocher leur 12e titre de champion de France. Un match nul ce soir suffit. Et en cas de titre obtenu dès ce soir, eh bien, le PSG donnera dans la sobriété, Julien Froment.
Ce soir au Parc des Princes, vers 22h55, pas de bamboche, mais une célébration tout de même en cas de titre de champion de France. Paris, qui aurait pu être titré mercredi dernier à Lorient, a vu son sacre retardé par l'AS Monaco, ce qui n'est pas pour déplaire finalement à l'entraîneur parisien Luis Enrique.
C'est quand même mieux que de la prendre dans l'avion en espérant la défaite de l'autre équipe. Ça va être une journée spéciale, c'est le scénario parfait pour célébrer avec nos supporters. Ce genre de match, ce n'est jamais facile, mais il est certain que notre objectif et notre envie de gagner ce match seront les clés importantes pour faire la différence.
Si Paris fait le job, il n'y aura pas de remise de trophée. La Ligue de football professionnel, traditionnellement, organise la cérémonie lors du dernier match à domicile de la saison. Ce sera donc le 12 mai prochain face à Toulouse. Pas de podium ce soir, juste un tour de stade pour communier avec les supporters, mais pas trop, car dès demain matin, les joueurs seront de retour à l'entraînement pour préparer leur demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Dortmund.
Allez, le rugby, c'est promis. On part suivre les dernières minutes de la dernière journée du tournoi féminin Destination France-Angleterre à Bordeaux. Bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En direct de ce stade Chaban-Delmas rempli de ses 27 000 spectateurs. On les entend derrière vous. Dans quelques minutes, l'équipe gagnante va s'offrir aussi le grand chelem de ce tournoi. Mais que les Anglaises sont tenaces!
Ah oui, elles sont surpuissantes ces Anglaises, elles sont plus efficaces que les Bleus qui essayent pourtant en vain d'emballer le match. Cette fin de partie, il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Elles essayent mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Le score c'est le même qu'à la mi-temps, 35-14, 5 essais inscrits par les Anglaises, 2 pour les Bleus, et les Bleus qui doivent en plus jouer depuis quasiment le début de la seconde période à 14 contre 15 après une action dangereuse de Assia Khalfaoui, sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre. Résultat, les Bleus à 14 qui tentent, mais pour l'instant elles butent sur le réalisme anglais et les Anglaises qui filent vers un sixième grand chelem ici à Bordeaux. Et vous avez parlé de 27 000 spectateurs, on a le dernier chiffre d'affluence Eric, ce sera 28 063 spectateurs, record d'affluence donc pour un match de rugby féminin en France.
Et bonne nouvelle pour le public qui assiste, mauvaise nouvelle pour les Français donc. Me jumelles françaises menaient 14-35 et les françaises qui ne jouent plus qu'à 14, donc après un carton rouge. C'était Fanny Lechevestrier en direct du stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Un dernier mot pour vous dire qu'en Dordogne, il y a 9000 foyers ce soir privés d'électricité après des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension, conséquence des orages. Les intempéries devraient se poursuivre dans la soirée. Le temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec une accalmie demain matin sur l'ouest du pays.
Oui, on aura un ciel plus calme et même quelques éclaircies, mais quand même encore beaucoup de nuages, un risque d'averse qui va rester présent des Pays de la Loire vers l'Aquitaine. On aura encore de la neige également sur les Pyrénées. Plus à l'est, là en revanche, ce sera agité, avec dès le matin des orages possibles des Cévennes à la Bourgogne, encore de la neige sur les Alpes, et puis dans l'après-midi, les éclaircies seront plus larges des frontières du nord-est en allant vers l'Auvergne, vers le midi toulousain, toujours plus vieux sur la région Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Plus à l'ouest, le risque d'averse orageuse revient entre les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes.
Et demain, on va encore gagner quelques degrés.
Oui, surtout le matin, avec une moyenne qui ira de 6 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 13 degrés en Bretagne, pour la plus basse jusqu'à 17-19 degrés au sud de la Garonne et en Provence.
C'était les prévisions de Céline Dacosta.
Politica. Immigration. Démocratie.
Cette année, on vote pour les élections européennes. France Inter se mobilise dans nos émissions et sur le terrain. Quels sont les enjeux? Que proposent les candidats? On vous donne les clés pour comprendre.
Ce lundi, le 18-20 est à Madrid, l'Espagne parmi les pays les plus pro-européens, mais aux multiples identités fortes, l'Espagne aux avant-postes du changement climatique et à la pointe du féminisme.
Europe et Europa. Europa.
France Inter, la radio des européennes.
Le 12 août 2022, Salman Rushdie est sauvagement agressé. Pour répondre à cette violence, l'écrivain choisit la littérature. Le couteau de Salman Rushdie, le livre événement aux éditions Gallimard.
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Oui, oui.
Merci d'avoir choisi France Inter, 19h17. Voici un bistrot et votre invité, votre bistroscopie, Charline Vanhoenacker.
Merci Eric Delvaux pour ces informations. Je prends le relais et je vous emmène au bistrot.
Allez, c'est l'heure.
On va prendre l'apéro avec Bully Lanners.
Allons-y.
Bonjour Bully Lanners.
Bonjour Charline
Vanhoenacker,
ça va?
Ça va bien. Et attendez, c'est lequel des deux chiens?
C'est Petrus.
Ah, c'est Petrus celui-là.
Ouais, c'est l'aîné.
Salut Petrus. Oh. Ça va Bully?
Ouais, et toi?
Ouais, très très bien. Et c'est quoi comme race?
Les Border Terrier.
Je connais que dalle, hein. Je te pose la question.
Pas s'asseoir, on revient, tu connais rien en chien et t'es hyper sympathique.
Et tu vas voir, pendant l'interview, c'est pire.
Ouais, ouais.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Bon, Bully.
Yeah.
Votre vrai prénom, c'est Philippe. Philippe Lanners.
Oui.
Non, mais oui, ça a l'air de vous embêter.
Ben non, mais je sais pas pourquoi ça sort régulièrement. C'est comme si les gens découvraient Wikipédia.
Bah oui, pardon, mais alors moi je me pose la question. Je
pourquoi?
Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus crédible dans le cinéma français de s'appeler Philippe Lanners. Ça fait genre cinéma d'auteur. Que Bully Lanners.
Parce que tu crois vraiment que j'ai choisi Bully? Tu crois vraiment que je me suis dit un matin, je me suis dit, putain, je vais essayer de me trouver un surnom. Moi, je me trouve un surnom, c'est Panthère, Tigre, mais pas Bully. On me l'a imposé. Je suis né juste après le roi Philippe, enfin celui qui est devenu le roi notre roi.
Mmh, ouais, roi des Belges.
Donc, un Belge sur trois de ma génération s'appelait Philippe. Là, au scout, on était quatre, à l'école primaire, on était six. Donc, tous les Philippes avaient un surnom. Déjà, à la campagne, tout le monde a un surnom. Mais là, il y avait Filou, Fifi, tout était pris.
Et vous vouliez vous distinguer?
Non, j'ai pas eu le choix. On m'a dit, toi, t'es le petit gros. Ça a été Bouboule qui s'est transformé, je ne sais pas comment, en Bouli. Et je n'ai jamais réussi à me détacher de ce surnom. Et au gré de mes avancées dans la civilisation, je quitte mon village, je vais à Liège, je remonte à Bruxelles, etc. Chaque fois, je me dis, je vais recommencer ma vie. Je vais me faire appeler Phil.
Ouais.
Et il y a Phil toujours un mec qui passait qui me fait « Hey, Bouboule, hey, Bouli !»
Toujours
voilà,
ramené à ça.
Donc, voilà.
Enfin, heureusement, c'est pas Bouboule la nurse, parce que ça, dans le cinéma français, c'était difficile.
Ouais, ouais, mais pas que Bouli non plus, tu vois. Il fallait quand même que j'accole mon autre famille, que j'existe quand même.
Autre désavantage, vous êtes acteur wallon. Et ça, c'est aussi crédible que journaliste wallonne ou humoriste wallonne. Résultat, je me dis, notre entrevue n'est pas crédible une seconde.
J'aurais préféré être Cheyenne.
Ça, c'est classe.
Ouais. Wallon, et à mon avis, les Cheyennes ne savent pas que les wallons existent. Tu vois, c'est clair que wallon, c'est pas un truc que tu te dis, on part gagnant. Non. Même chez nous.
Ouais.
Et même encore peut-être plus chez nous. Mmh. Quand t'es wallon, forcément, ça va pas aller. Mmh. Même, on commence à se détacher de cette image-là, je pense. Je pense.
Mmh. On essaie.
Regarde, on est déjà deux, on est à
mais
Paris.
Ça s'annule. Tu n'es pas crédible parce que t'es acteur wallon, je ne suis pas crédible parce que je suis journaliste wallon. Ça s'annule, baf. Alors restez avec nous, ça va être formidable, avec Bouli la nurse. Malgré tout ça, vos quatre premiers films en tant que réalisateur ont reçu des prix. En tant qu'acteur, vous êtes multi-récompensé. Il n'y avait pas de cinéma dans votre ville quand vous étiez minot. Et dans la ville d'à côté, on passait avec les gros gros succès populaires. Je me suis demandé comment est-ce qu'on passe de pas de cinéma à réalisateur, acteur, multiprimé.
Bon, ça passe par plein de trucs. La chance que j'ai eue, c'est que je suis né à la frontière allemande et nous on n'avait pas... c'était hertzien encore. C'est-à-dire qu'il y avait une antenne sur le toit, il n'y avait pas le câble. Et donc, si tu étais mal situé dans le village, tu captais pas... Tu vois, il suffisait qu'il y ait une colline derrière et ça captait pas bien. Mm-hmm. J'ai l'impression de parler d'un truc d'un autre siècle, mais c'était 1970, voilà. Donc, nous, on avait la chance, du coup, d'avoir les chaînes allemandes. Parce qu'on captait pas bien l'RTB, la chaîne belge. Donc ça faisait chier mon papa qui parlait pas allemand. Mais moi, j'ai pu regarder du coup des films de Wenders à la télé. Parce que Wenders a fait plein de films, des téléfilms. Tous ses premiers films étaient des téléfilms. La lettre écarlate, l'angoisse du gardien de but, etc. C'est des films qui passaient à la télé. Et donc j'ai découvert une forme de cinéma d'auteur à la télé. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, c'est quand même très très différent de la 7e compagnie au clair de lune, quoi. Il y a vraiment des choses très différentes.
Là, moi, j'ai envie de vous remettre une palme, en plus de tous vos prix, Bouli la nurse, la palme du discours. Au Magritte du cinéma, il y a 2 mois, c'est l'équivalent des César belges, vous êtes le seul acteur, à ma connaissance, à avoir prononcé tout un discours dans une cérémonie de cinéma, sur MeToo. Vous dites, il n'est plus question de ne pas vous entendre, toutes les couches de la société doivent être entendues. Et là, vous citez... Les femmes de ménage doivent être entendues, les ouvrières doivent être entendues, les militaires, les employés, les sportifs, les enseignants, les enfants. Vous êtes le seul à avoir osé faire ça, en tant qu'acteur.
Ouais. Mais à partir du moment où j'accepte la présidence, je ne pouvais pas ne parler de ça. Et on est un homme de 59 ans, blanc, comment je me positionne par rapport à ça? Donc j'ai été rechercher quelque chose, c'est ma femme qui m'a dit « mais parle de ton histoire, ça te donnera une forme de légitimité à en parler ». Et puis après j'ai repensé, c'était vraiment l'anniversaire de ma maman, qui a 87 ans, qui était ouvrière saisonnière, et puis qui a fait le ménage. Je me suis dit « mais si c'était arrivé à ma mère, qui aurait écouté ma mère ?» Personne. Donc je pensais à toutes ces femmes-là, moi je viens d'un milieu extrêmement modeste, et ces gens n'ont jamais accès à la presse, et la parole, elle doit se libérer, mais l'écoute, elle doit aussi être à un moment donné présente, parce qu'il ne suffit pas de parler, il faut que quelqu'un écoute. Donc il faut que quelqu'un écoute toutes les femmes, tous les gens qui ont besoin de parler. Mmh. Et c'est de ça que je voulais parler, parce que c'est facile de ramener ça au cinéma. Nous, on est tout le temps dans la lumière, mais il y en a plein qui ne sont pas dans la lumière, donc il fallait parler d'eux.
Et puis vous dites, qui écoute les hommes qui souffrent du même mal? Ça aussi, c'est très neuf, en réalité.
Oui, parce qu'on est, y a des hommes qui souffrent de harcèlement aussi. Et c'est pas une question de genre, une question de sexe, c'est une question de pouvoir. Celui qui a le luxe de pouvoir exercer son pouvoir et non user pour blesser, meurtrir l'autre, ça, c'est le harcèlement. Et donc, c'est pas genré. Par contre, ce qui est vraiment genré, c'est l'image qu'on a aussi de l'homme, c'est-à-dire qu'on doit être fort. Moi, d'avoir dit ça, j'ai des amis qui m'en ont voulu.
Mais non.
Bah si, sur la tête de ma mère. J'ai des amis qui m'en ont voulu, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as à raconter des trucs comme ça ?» Je dis « Mais parce que ça m'est arrivé. »« Ouais, mais t'es un mec, tu te laisses pas faire. » Je dis « Mais je ne me suis pas fait violer. Je me suis fait harceler. Ça n'a rien à voir avec une position de force, de muscle, etc. » C'est plus simple pour moi. Il y a un mois, j'étais cambriolé dans mon théâtre de marionnettes. J'ai chopé le voleur, je l'ai mis à terre, tout ça. Mm-hmm. Ça, c'était super cool. Pour tout le monde, que je dise, j'ai chopé le cambrioleur, j'ai mis 2 fraises, et il était par terre. Ça passe dans le discours masculin. Mais un mec qui dit, j'ai été harcelé par une femme, il y a un truc qui passe pas. Et donc, il y a aussi, chez les hommes, il y a un problème de l'acceptation d'un homme par un homme, tu vois. Il est figé dans un carcan, il n'y a rien à faire, ça reste très très fort, ce truc-là.
Donc on comprend mieux pourquoi c'est difficile pour les hommes parfois de parler, plus difficile pour les hommes que pour les femmes, vous pensez ?
Un homme... sais pas si c'est plus difficile, mais en tout cas, il sera jugé par les autres hommes, ça c'est sûr. Beaucoup plus qu'une femme ne sera jugée par les autres femmes. Une femme qui parle, elle sera soutenue par les autres femmes. Un homme qui parle de ça ne sera pas soutenu par les autres hommes.
D'où l'importance de votre discours, parce que ça a dû résonner chez certains hommes qui justement rencontrent les mêmes problèmes et n'osent pas parler pour cette question d'atteinte à la virilité, dans le fond.
Plein de mecs sont venus me trouver après, dans la rue, m'ont appelé, j'ai reçu des messages. Plein de mecs m'ont dit merci. Donc je me dis, oui, ça a touché quelque chose auquel je ne m'attendais pas, tu vois, parce que moi j'avais accepté la présidence et je me suis dit, quel timing de merde accepter, parce que je dis à ma femme, je dis, accepter la présidence, c'est pendant 4 minutes 30 de discours d'inauguration, j'incarne le cinéma belge, certes, mais belgo-français. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, on ne peut pas dire que ce soit, que le milieu aille bien. Et je dis, c'est vraiment une position très délicate. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça allait toucher beaucoup de gens du tout, vraiment. D'autant plus que pendant le discours, j'avais des lunettes, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais grosses lunettes,
mais vraiment
des lunettes identifiées. Ah, Bouli a mis des lunettes. En fait, ces lunettes, on m'a dit, si tu les mets, tu les gardes. C'est des lunettes qui coûtent une blinde. Donc je lui ai dit, ok, je les mets. Et arrivé sur le truc, là, devant la scène, c'est en direct quand même, je me rends compte que, bah, évidemment, il n'y a pas mes verres correcteurs. Et donc mon discours, je ne sais pas le lire. Je l'avais préparé, il était dans ma poche, mais il est parti en live, en fait.
Ah ouais, il y avait une partie d'improvisation dans le discours.
Ah ben, je suis parti dans une espèce de,
ah, mais
de
c'est
truc.
C'est encore plus fort. Ben oui. Moi, je l'ai réécouté, j'étais dans la salle, puis je l'ai réécouté avant de nous
écoute,
voir.
Écoute, j'ai tellement appréhendé le moment qu'arrivé sur scène, j'ai comme été touché par la grâce. Alors que moi, je ne suis pas du tout un exercice dans lequel je me retrouve et que j'apprécie. C'est comme ça, improvisé devant tout le monde, en plus dans un costard, devant tout le milieu. Et là, tout à coup, je me suis dit...
J'encourage tous nos auditeurs et nos auditrices
à
aller... Non, pas à mettre des lunettes, à aller voir
et
entendre ce discours, je vous promets. En plus, maintenant qu'on sait qu'il est en partie improvisé, c'est
incroyable. Oui, c'est pour ça que tout le monde dit « t'avais l'air hyper naturel ». Je dis « mais j'étais hyper naturel parce que les autres regardaient le prompteur, je regardais à gauche, à droite.
» Et ce discours, j'ai l'impression qu'il ne passe pas la frontière. Aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux. Moi, par exemple, je l'ai relayé, etc. Ce discours n'a pas passé la frontière, alors que Bouli Lanner, c'est très connu en France, qu'il y a un discours fort qu'on n'a jamais entendu ici, qu'on se plaint de ne pas l'entendre, qui est, moi, je trouve un peu révolutionnaire, en fait. Et comment ça passe pas la frontière, cette affaire ?
Moi, j'ai des amis, mais qui sont dans des milieux féministes et qui ont relayé le discours, mais c'est dans des poches très spécifiques, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une gêne de parler de ça ? Est-ce qu'il y a une gêne inconsciente chez des hommes qui décident de ne pas le diffuser ? Je sais pas.
Je voudrais toucher un mot de votre éducation. Le collège le plus proche était le collège catholique tenu par les Pères Blancs. Donc vous avez été éduqué par des missionnaires de retour des colonies qui venaient finir leur jour dans ce collège.
Ouais.
Quelle éducation vous avez eue ? Toi, vous êtes un survivant ?
Non, mais c'était drôle. C'était drôle, franchement, c'était drôle. Parce que c'était des missionnaires qui avaient été missionnaires au Congo et en Rwanda et au Burundi, mais aussi au pôle Nord. C'est les seuls missionnaires qui ont été essayés d'évangéliser les Inuits et les
Inuits.
Et c'est les seuls, hein, il n'y en a pas d'autres. C'est les seuls qui ont été...
Et vous racontez ça ?
Ben, ils étaient un peu aux fraises quand même, c'est des vieux, quoi. Donc, mais par contre, ils avaient ramené plein de souvenirs. Donc je me faisais chier au collège. Ils n'étaient pas du tout préparés pour faire des études comme ça. Mais il y avait le décorum. Le décor était, c'est un bâtiment du 18. C'était Harry Potter, quoi. J'étais vraiment dans Harry Potter. Moi, quand je vois Poudlard, mon collège était mieux. Il y avait des sonneries, il y avait des codes, avec comme des cornes de brume dans les couloirs.
Mais non.
Tu faisais un numéro de téléphone, quand on appelait tel ou tel frère ou tel père, ils avaient un code comme du morse. Trois brefs, deux longues, trois brefs. Et alors, toute la journée, on entendait... Et alors, on les voyait passer dans les couloirs. Il y en a qui avaient pris des coups de machette. Alors, on racontait des histoires. Nous, ça nous faisait rêver. On disait, bah, lui, il a été poursuivi par des cannibales. Toi, on était jeunes. Mais il y avait aussi, dans les classes, des aliments empaillés, des œufs d'autruche, des insectes, des trucs...
Tous des trucs qu'ils avaient ramenés
des
colonies.
Bien sûr.
Dingo. Alors, c'était le collège d'Harry Potter. Il y avait un Voldemort. C'était le prof de maths qui continuait un peu à hanter vos nuits, quand même.
Ouais.
C'était pas
Helmut. Ouais. Lui m'a vraiment. En fait, c'est à cause de lui. Je crois que j'y ai repensé après dans une interview. Je crois que mon père était très respectueux de la loi et il nous enseignait, il disait voilà, l'État ne ment pas, l'État c'est tata, c'est l'État providence, mais il fallait. Et moi, j'étais très respectueux des règlements et je pense que ma rupture avec ça, avec l'autorité, elle est venue de ce prof de maths qui m'a trahi en fait quand j'étais jeune. Il y a eu une vraie trahison. quand t'es ado, j'avais perdu mon ami d'enfance. Enfin, je vais pas raconter l'histoire. Il m'a trahi. Et à partir de là, il y a une vraie rupture qui s'est faite sur moi. Et je crois que mon côté punk est né grâce à ce prof de maths, en fait. Et donc, j'ai fait aussi un apéro. Je fais du vermouth, mais que j'appelle le Helmut, le vermouth de l'enfer. Helmut. Et il y a sa tête sur la bouteille. Ça me permet d'exorciser.
Ah ouais, je vois bien, oui, oui.
Charline Van Macker, Bistroscopie, sur France Inter.
Et c'est pas le prof de religion qui vous a fait douter de la foi aussi ?
Si, alors c'était très paradoxal parce qu'on était dans un collège donc tenu par des pères et qui, eux, étaient relativement cool quand même. Et mais les profs, soi-disant laïcs, étaient beaucoup plus religieux intégristes que eux. Ce prof de maths là, c'était vraiment un catholique fervent, presque créationniste. Et j'avais par contre un prof de religion qui nous a fait des lectures d'évangile, mais des lectures politiques de l'évangile. C'est-à-dire, il a remis tout dans les contextes politiques en faisant des parallèles avec l'histoire. Et il nous a appris ce que c'était les zélotes, etc. Et que c'était pas du tout ce qu'on racontait. Il a remis en question les évangiles. Il nous a parlé des évangiles apocryphes. Donc ça, au sein d'un collège tenu par des pères. Donc j'ai eu tout à coup une lecture politique de l'évangile. Ça m'a permis d'avancer dans moi, parce que quand j'étais jeune, moi, je voulais même être curé à un moment donné, tu vois. Je crois qu'on a tous une phase toute petite où on veut être curé aux bonnes sœurs. Ça dure pas longtemps, hein, je vous rassure. Après, on découvre l'alcool et la... mais avant ça, c'est le moment entre le Lego et l'alcool.
Ah ouais.
Tu vois, le truc où tu ne t'emmerdes un peu avec tes Lego et t'as pas encore trouvé l'alcool. C'est un petit truc de transition.
C'est là qu'on peut basculer. C'est
là on peut basculer, voilà.
C'est là qu'il faut un prof de maths sadique pour basculer dans le punk.
J'ai ce qu'il fallait au collège, moi, j'étais bien servi.
Ah bah, et si on commandait un coup à boire ?
Oh, je vais y aller soft, hein, monsieur, ouais, parce qu'on a eu des heures en première quand même, j'ai bien donné là. Je vais prendre un petit décaféiné. Ouais.
Moi, je vais prendre une bière belge, n'importe laquelle, du moment qu'elle soit belge. Tiens, c'est quoi être un bon barman ?
Ah, moi, je suis un super bon barman.
Ouais.
Ouais, mais le bar, j'ai passé des années à bosser dans les bars aussi. Hein. Moi, pendant 25 ans, j'ai bossé dans les bars à Liège. J'ai fait les nuits dans le centre-ville. J'adore cette position. Mais en fait, t'es au théâtre, enfin, les gens te regardent, t'es un peu plus haut. En général, dans le bar, t'es toujours un peu plus haut. Et les gens viennent vers toi. T'es le centre, donc les gens viennent vers toi et c'est tout dans la tchatch, quoi. Comment tu fais pour amener à boire et tu fais la petite blague et tout. Et j'adore ça. Et puis tu vois les gens qui basculent. Au fil de la soirée, tu vois, gentiment et tout. Et ça, c'est super drôle. Et donc, du coup, t'as des conversations avec un peu tout le monde. Et ça part de juste l'envie de, pour quelqu'un de boire un truc. Et tu pars, hop, et tu pars dans des conversations. J'adore être barman. C'est une poche de résistance, les bistrots. J'adore aussi, je rentre dans des bistrots n'importe où, en Belgique, dans le trou de cul de la Belgique, t'as des bistrots. Mais parfois, t'as des bistrots où t'oserais pas rentrer. Mais j'adore rentrer là, justement. Et j'adore ce moment quand tu rentres. Et que tu crèves une intimité comme ça. Tu rentres dans une intimité auquel normalement t'as pas droit. C'est pas ta place. Tu rentres, et j'aime bien dire bonjour. Si tu rentres dans un bistrot et tu fais bonjour, tu peux rentrer dans le pire des bouges. Tu dis bonjour, ça va marcher. Et après, tu rentres en conversation.
Un peu de musique. Chewbacca a programmé Liam Bailey pour vous. Dance with me, c'est smooth. C'est Bully de la danse dans Bistroscopie.
I look around and there you were. Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Bouly la Nurse, qu'on peut voir à l'affiche du film Une affaire de principe, film d'Antoine Rimbaud, avec Thomas VDB et Céleste Brunkel. Vous incarnez José Bové au moment où il est eurodéputé, nous sommes en 2012. Thomas VDB, c'est votre assistant parlementaire, et Céleste Brunkel aussi, en tant que stagiaire. Vous fourrez à plein nez, enfin en tout cas José Bové le sent, sur fond de lobby du tabac, de compromission de Barroso, qui était le président de la Commission européenne, et José Bové, que vous incarnez, enquête avec ses assistants parlementaires. Bouly la Nurse, on vous propose souvent d'interpréter des personnages qui vous ressemblent un peu. Il vous ressemble, José Bové, à plusieurs égards ?
Il me ressemble... En fait, je ne savais pas s'il allait me ressembler ou pas. Moi, je connaissais José Bové de ce que j'avais lu sur lui, puis il a été fondateur aussi, dans moi, mes actes militants et activistes. José Bové, le Larzac, quand j'avais 12 ans. Mais Larzac, c'est un mot qui reste. Ça a une belle consonance. Larzac, ça sonne bien. C'est lui qui m'a fait découvrir les OGM, le gaz de schiste, c'est lui qui s'en est occupé. Donc, José Bové, pour moi, une figure à suivre. Voilà. Et quand on m'a proposé d'interpréter José, j'ai pas lu le scénario, mais je me dis, c'est vrai qu'on n'entend plus parler beaucoup de José. Moi, je l'ai toujours aimé. Je ne sais même pas ce qu'il était devenu. Mais j'ai tout de suite dit oui, parce qu'on a plein de points en commun. Mais quand je l'ai rencontré, je ne pouvais pas savoir que ça allait bien se passer comme ça, parce qu'on peut savoir dissocier l'œuvre et l'auteur. Hein,
je dis, si ça se trouve, c'est un connard.
Ben, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est un connard qui a fait des choses super, mais que dans la vie, il est juste infect, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai été chez lui sur Larzac pour le rencontrer. Et en fait, ça a collé ouf.
Et là, vous êtes rendu compte qu'il y avait une villa avec jacuzzi.
Pas du tout. Non. Non, ce qui est génial, c'est quand on arrive sur Larzac, c'est comme quand tu prends la calèche pour aller au château de Dracula. Le chemin est déjà quelque chose. Et arriver sur Larzac, c'est pas quelque chose d'anodin. Ici, tu montes sur le Larzac, tu arrives dans une région quand même assez particulière. D'un point de vue visuel, c'est très beau, le Larzac. C'est très puissant, c'est austère aussi, c'est des hauts plateaux. Tu passes devant le camp militaire. Tu sais que la lutte, elle a eu lieu là. Et puis tu arrives in situ, tu arrives à l'endroit. Et puis non, José, il habite toujours à Montredon. Donc c'est à Montredon, il y a quatre maisons. Je crois qu'ils ont l'autre depuis 5 ans. Non,
mais quel luxe, l'eau courante depuis 5 ans. Mais quel luxe. C'est vraiment un anti, ce José Bové.
C'est terrible, oui.
Et là, c'est votre première rencontre avec lui, c'est là-bas, en allant le voir dans le Larzac.
Ouais. Ah non, attention, on ne le dit jamais dans le Larzac.
Ah, pardon.
Sinon, tu vas te faire allumer
sur le Larzac.
Ouais, sur le Larzac. Donc, José Bové n'a jamais fait de fromage de chèvre dans le Larzac. Il a fait du fromage de brebis sur le Larzac.
Ok.
C'est la phrase où tu peux te mettre José à dos dès le début.
C'est parce que je corrige tout le monde. Tous les gens qui disent sur Paris, ça m'énerve.
Ah oui, moi aussi. Mais non, mais par contre, le Larzac, là, c'est.
Dans le Larzac, mais.
Non, là, c'est vraiment sûr, parce que c'est au plateau. Et là, ils y tiennent.
Ouais, j'imagine, ouais. Donc, cette rencontre avec José Bové, elle est naturelle.
Elle est naturelle. On a parlé de tout sauf de cinéma. On n'a pratiquement pas parlé du film. On a parlé de l'agriculture, de mes patates, parce qu'eux ne peuvent pas en planter, parce que sur Larzac, les patates ne prennent pas. Ils ne savent pas planter de patates. Et puis, moi, ce qui m'a.
Là, c'est un mythe, s'écroule. Ils ne savent même pas planter
non,
de patates dans le Larzac.
Si, mais ça ne pousse pas. Il n'y a pas assez de potassium. Le sol est trop sablonneux. Donc, c'est très bon pour les carottes, les navets, les poireaux, etc. Mais pas pour les patates. D'accord. Et moi, qui suis un fils d'Ardennais, la patate, c'est.
Bien sûr.
C'est
la base. C'est la base. Il cuisine bien, José Bové ?
Ouais, il cuisine bien. Il aime bien la viande, il aime bien le fromage, il aime bien les trucs que tu n'as pas le droit de manger, quoi.
Un mot sur vos partenaires et leurs personnages. Thomas VDB incarne. L'assistant parlementaire de José Bové.
Qui existe.
Ah ouais, bien sûr.
Qui existe en vrai.
Et Thomas VDB, c'est vraiment votre partenaire. C'est comme un buddy movie, en fait, aussi, avec VDB. Ça s'est passé comment? Il est sympa, ce Thomas VDB?
Mais oui, il est super. Il y a le seul mec qui accepte de jouer dans un thriller en short, quoi.
Oui, c'est vrai.
La Bermuda. On dirait le petit Nicolas, 3.
Ça lui va très bien. Ouais. Premier grand second rôle où il est tout à fait sérieux.
Ah ouais, mais il est hyper sérieux. Mm-hmm. Mais ouais. il est super dans le film. Il était très, très drôle. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on était quand même dans une institution. Allez, bon, il faut l'avouer, le Parlement européen, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est pas des endroits. Nous, on rentrait dans le Parlement, on avait, après 10 minutes, on avait tous mal à la tête. Je sais pas, il y a un truc énergivore, surtout à Bruxelles, hein, c'est un appel au suicide, ce Parlement. Le bâtiment. Il y a d'ailleurs une sculpture en bas avec des pointes en métal. C'est une espèce de puits de lumière qui fait 5-6 étages de haut. C'est vraiment le truc pour que tu te jettes dans le vide et que tu ailles t'empaler dessus.
C'est pour ça que les eurodéputés, ils siègent pas toujours.
Mais par contre, les assistants parlementaires, ils kiffent leur boulot. Moi, j'ai vu des mecs là-bas, aussi des gens qui travaillent pour les ONG, qui sont là tous les jours. Et comme José, tous les jours à 8h du mat, ils étaient au Parlement. Ils avaient une espèce de rigueur militaire. Et ils adorent leur travail. Donc eux, ils font abstraction totale du bâtiment, nous pas. Et heureusement qu'on était avec Thomas et Céleste. pour amener un peu entre nous beaucoup de bonne humeur dans un endroit où bah, tu rentres comme dans un aéroport. Quand tu te fais fouiller le matin et tous les jours, les mecs, alors qu'ils te voient tous les jours, ils font comme s'ils ne t'avaient jamais vu. Hein. T'enlèves ta ceinture, ton GSM, t'as reçu comme une merde, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais le Parlement nous a ouvert les portes. Ils ont voulu que ça se passe là-bas parce qu'ils ont un désir de transparence. Ce qui n'est pas du tout le cas ni de la Commission ni du Conseil où là c'est d'une opacité totale. Mais le Parlement veut montrer que l'institution fonctionne et qu'elle est transparente.
Surtout en ce moment où on s'apprête à voter. Votre regard sur la jeunesse qu'incarne le personnage de Céleste Brunkel, qui joue la stagiaire assistante parlementaire, c'est une sorte de Greta Thunberg ou de Camille Etienne il y a 10 ans.
Ouais.
Quel regard vous portez sur cette jeunesse-là, très engagée, très écolo?
Ben, cette jeunesse-là, c'est celle qui peut nous sauver. Parce que notre génération, elle a raté tout. Donc, moi, je suis très content de voir des jeunes. Bon, ils sont parfois très radicaux, mais je pense qu'ils n'ont plus le choix. Donc, moi, je les soutiens à fond, tous. J'ai été voir des zadistes à Bure, j'ai participé aux manifs sur le climat, tout ça. Donc, j'ai rencontré les équivalents de Greta Thunberg en Belgique, Adélaïde Charlier. Elles ont transformé leur vie, c'est-à-dire qu'elles ont fait abstraction de leur vie pour ne se consacrer qu'à ça. Donc, il y a dans la jeunesse des vrais militants qui vont aller jusqu'au bout des choses et qui drainent avec elles beaucoup de jeunes aussi, et c'est vraiment important de les avoir. Par contre, ces jeunes-là vieillissent aussi. Maintenant, il faut aussi éduquer ceux qui viennent après, parce que la génération Greta Thunberg, peut-être les premières manifs sur le climat, ils ont 10 ans, donc à un moment donné...
Elle est vieille déjà, Greta.
C'est la vieille Greta. Maintenant, il faut aussi les autres, il faut éduquer tous ceux qui vont venir après.
Vous aussi, vous êtes militant, hein, position contre le nucléaire, vous avez manifesté pour le climat, participé à des actions de désobéissance civile. En Belgique, on appelle ça être militant écolo. En France, on appelle ça être éco-terroriste.
Ouais.
Votre prochain prix, votre prochaine décoration, c'est d'être fiché S?
Oui, je serais très fier d'être fiché S, si c'est ça, les critères pour l'être. Quoi. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en France, t'as plus le droit de militer pour l'écologie, t'es associé à du terrorisme. C'est hallucinant, je trouve. Je veux dire, pour nous, Belges, c'est aberrant ce qui se passe en France. La plupart des Belges ne le savent pas. Quand tu expliques ça en Belgique, les gens sont atterrés. Associer de l'écologie douce et parfois avec des débordements, mais comme dans toutes les manifestations. Je me rappelle que quand les mineurs, les métallos, les fermiers manifestaient, il y a toujours des débordements. C'est normal, les gens sont à cran, donc puis les flics en face, ils sont là pour taper. Donc forcément, il y a des débordements, mais de l'afficher, il ne faut quand même pas déconner. Quoi. Je veux dire, c'est pour le bien de la société civile que c'est fait. Et franchement, j'ai été voir les zadistes à Bure, enfin, faut aller voir une zad, hein. C'est pas cool. Passer tout l'hiver dans des cabanons à se réchauffer ou quoi, un truc qui chauffe pas et qui fait plus de fumée que de chaleur, avec des CRS tout autour qui arrêtent pas de t'emmerder, qui te filment tout le temps. Mais j'y étais, c'était absolument... T'es en zone de guerre. C'est des zones de guerre. Faut aller voir, Bure, c'est une zone de guerre, Bure.
Et en Belgique, il y a des ZAD?
Bon, il y a une petite ZAD à Liège, mais qui était vraiment très gentille par rapport à ce qui se passe en France. En France, c'est beaucoup plus dur. Moi, j'ai assisté à des manifs où vraiment j'avais l'impression d'être dans un film de Ridley Scott qui parle de chevaliers au Moyen-Âge, parce qu'on manifestait, peut-être dans les collines, je sais pas, c'est la Basse-Meuse et la Haute-Marne. Donc, c'est des grands champs étendus comme ça, comme des champs de bataille. Hein. C'est à Azincourt, quoi. Puis à un moment donné, tu vois arriver le dessus, c'est l'armée de Henri V. Hein, et tout à coup, t'as les mecs te chargent dans des grands champs. Et tu dis, mais c'est exactement la même chose que les champs de bataille.
Sauf qu'il y en a qui se battent avec des carottes.
Ouais, mais les autres avec des grenades. Parce que la fois où j'y étais, il y a un mec qui a perdu une main quand même.
Ah,
donc,
ouais.
Ah oui, c'est violent. Hein, oui.
Et vous vivez dans une ZAD? Vous êtes un Amish?
Je vis dans une ZAD, non, je ne vis pas dans une ZAD, je vis sur ma petite colline à Liège.
Oui, mais en autarcie, c'est une forme d'autarcie que vous avez héritée de vos grands-parents, c'est ça?
Mes grands-parents vivaient, avaient une toute petite ferme dans laquelle il n'y a jamais eu de moteur thermique, par exemple. C'était un cheval qui tirait... Mon grand-père n'avait jamais eu de mobilette, mais il n'y avait absolument aucun moteur thermique, donc aucun moteur. Donc tout était tracté par cheval. Et il n'y avait pratiquement rien. Donc il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas d'eau chaude, il y avait un robinet, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de frigo. Mais pour nous, c'était normal parce qu'on était nés là. On passait tous les week-ends là-bas. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient en semi-autarcie. Sauf qu'ils n'appelaient pas ça comme ça.
Mm-hmm.
Pour eux, c'était juste la vie normale, quoi.
Ouais. On parlait d'Europe pour finir avec, sur le film Une affaire de principe. Vous allez être obligé de voter. Vous êtes en Belgique.
Ouais, nous on est obligés.
Ouais, ouais, obligés, ouais, de voter aux européennes.
Ouais.
Vous allez voter à droite comme d'habitude.
Bien sûr.
Vous avez justement grandi à Moresnet-Chapelle. Vous l'avez dit tout à l'heure, à la jonction des frontières de l'Allemagne et des Pays-Bas. minorité francophone parmi la minorité germanophone du pays, parce que la politique belge, c'est un peu compliqué. C'est un concentré d'Europe. Vous pouvez vous sentir que très très fort européen, non ?
En fait, moi, quand j'étais petit, c'était normal. J'allais au collège, je passais par la Hollande. J'allais dire bonjour à ma mère, je passais par l'Allemagne. Mon père était sur le poste frontière.
Oui, il était douanier en plus.
Il était douanier en plus. Et ma mère, elle bossait, elle nettoyait, mais elle faisait ça en Allemagne. Donc elle passait la frontière tous les jours. En fait, l'histoire de mon village est très intéressante parce que c'est le début de l'Europe. D'ailleurs, il y a un bouquin de David Van Ruybrouck qui s'appelle Zinc, un tout petit bouquin qui raconte l'histoire de mon village. Et en fait, il y a une série qui va être tirée de ce bouquin-là, d'ailleurs. C'est le début de l'Europe. C'est-à-dire que c'est un territoire neutre. Après la chute napoléonienne, c'est la zone sensible entre la France, l'Allemagne, la Prusse, voilà. Et l'Europe se reconstruit. Et on sait que c'est là que ça va un peu merder. C'est toujours là que ça merde. La Belgique est un champ de bataille. Il n'y a pas de frontières naturelles. C'est des grands champs. C'est facile pour aller se battre. Et donc, il y a une société minière qui s'appelle Vieille Montagne et qui fait du zinc. Et à ce moment-là, Haussmann refait Paris. Et donc, tous les toits de zinc de Paris sont faits avec le zinc de mon village. D'ailleurs, il y a un dicton dans mon village qui dit quand il pleut à Paris, il pleure dans nos cœurs.
Oh, ça alors.
Et alors, ils ont fait, en sachant que c'était très convoité, le zinc était le minerai le plus convoité de l'époque, ils savaient que ça allait devenir une zone de tension, ils en ont fait un territoire neutre. Et ça a été neutre pendant plus d'un siècle. Donc c'était un triangle qui était géré par la société Vieille Montagne, mais avec l'aval de la Prusse, de l'Angleterre et de la France. Il y avait un bourgmestre, mais qui n'était pas élu, qui était nommé. Il y avait une armée, ils étaient six. Il y a eu un timbre. L'espéranto a été écrit dans mon village.
Ah oui, non, mais c'est super intéressant. C'est le centre de l'Europe, votre village.
Mais c'est, oui, parce que de ça est né le Benelux. En fait, cette neutralité a cessé en 14 quand les armées allemandes sont rentrées en Belgique. Elles sont passées par là. Et c'est après la guerre 14, ça a été rattaché à la Belgique. Mais ce triangle qui s'appelle Moresnet neutre, en fait, est le début de l'Europe. Je suis né sans le savoir dans le début de l'Europe, ça, dans le cœur de l'Europe.
Et donc, il est tellement logique que vous incarniez José Bové dans Une affaire de principe, le film d'Antoine Rimbaud avec Thomas VDB et Céleste Brunkel. Donc, Bully la Nurse, vous avez aussi fait partie d'une troupe de comiques qui est cultissime en Belgique, qui s'appelle Les Snuls. Moi, quand on me demande ce que c'est, parce que ça fait partie de mon éducation, je dis c'est les nuls à la belge, parce que c'est ce nul, mais ça n'a rien à voir.
Non,
les blagues belges, un jour, vous êtes tombé sur un marché en France, sur un vieux 33 tours très rayé, donc il avait été écouté.
Très écouté,
un disque de blagues belges. Vous dites que ça vous a choqué d'entendre les blagues.
Je les collectionne. Parce que je me dis quand même, ça, faut pas l'oublier, parce qu'on parle de grossophobie, on parle de toutes les phobies, mais il faut pas oublier que les Français, vous êtes foutus de notre gueule pendant plus de 25 ans quand même. Et régulièrement. Je veux dire, moi, quand j'allais en France petit, on disait qu'on était belge, tout de suite, on y avait droit, quoi. Bon, allez, une fois, bon, parce que je connais personne chez moi qui parle comme ça, cet accent belge que vous avez inventé. On les connaît pas, nous, ces mecs-là. Tu vois, il nous faut rire aussi. Et nous, on rit de notre blague belge. Donc, j'ai commencé à collectionner les 33 tours de blagues belges qui sont souvent faits par des Français. Et là, c'est dans la Beauce, j'en ai trouvé un. Donc, il est hyper griffé, donc hyper écouté. Donc, des familles beauceronnes l'ont réécouté les dimanches. Et ça commence par cette blague-là. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu sais comment on soigne un Belge qui est malade une fois ? Non ? Eh bien, tant mieux. Ben, vas-y, transpose ça avec un juif, un arabe, une lesbienne. tu te ramènes. Mais avec un Belge, ça passe.
Tu vois bien. Tu vois bien le problème que ça peut.
Ben, tu vois, mais c'est bizarre, mais même quand je la raconte comme ça, les gens rient. Mais je dis, avec un Belge, ça passe toujours. C'est bizarre quand même, ce truc. On peut plus manquer de personne. Nous, on est la dernière poche de résistance. Nous, on s'en fout, franchement, en vrai. Vous pouvez continuer à vous foutre de notre gueule, parce qu'en fait, on s'en fout complètement.
Parce qu'on s'en est tellement pris plein la gueule.
Ouais,
on est
vaccinés. En vrai, on s'en fout.
En vrai, on s'en fout.
En vrai, on s'en fout.
Absolument, absolument d'accord. Bon, et donc comme ça, on va moins vous voir au cinéma les deux prochaines années.
Ouais. Il y a quand même le Code d'Hippocrate qui va sortir en septembre. Et puis après, je fais un petit break de 2 ans.
De peinture ?
Peinture, de marionnettes, de jardinage. Et puis surtout de me réimmerger dans la vraie vie et de me reconnecter avec les gens et ne pas parler que de cinéma, parler de tout. Parce que je pense que les 2 années à venir vont être des années très transitoires et j'ai envie de participer à ça.
Vous pensez ?
Oui, une petite voix me dit, sois attentif à ce qui se passe autour de toi.
Et de participer, comment alors ?
On verra comment ça évoluera.
Parce que vu le film que vous nous proposez aujourd'hui, Une affaire de principe, c'est aussi faire œuvre politique et citoyenne.
Oui, bien sûr. Et que ce soit celui-là ou le film de Dominique Moll ou même Hippocrate. Oui, là, je me sens utile aussi à faire quelque chose, à apporter un message, à parler aussi de l'effondrement du système hospitalier en France, des choses comme ça. Ça me paraît important de parler de ça aussi. Mais là, maintenant, j'ai vraiment besoin de traîner dans les bars, d'écouter ce que les gens disent et me faire ma petite idée de ce que le monde va devenir.
Et pour nourrir votre art aussi ?
Oui. Bah, pas la peinture, parce que la peinture, c'est vraiment un truc à part. Je fais des paysages, moi, donc je suis resté dans un truc très... Quoique là, je fais quand même une série de cadavres, c'est vrai. Je peins des cadavres.
C'est louche, ça.
Ouais. Je suis pas sûr que ce soit très vendeur. C'est des cadavres en décomposition. Non, parce que comme j'aime l'histoire, j'ai revu beaucoup de documentaires.
Ça y est, on finit l'interview, je me rends compte que vous êtes un psychopathe.
Mais non, pas du tout. Non, non, non. C'est, tu vois, quand tu vois sous ces documentaires, Berlin bombardé, il y a des images d'archives remises en couleur avec une très belle voix qui raconte le truc. Et puis, tu as toujours des cadavres, on ne sait jamais qui c'est. Et puis, je suis tombé comme ça en émotion devant le cadavre d'une femme qui a été tuée à Berlin pendant des bombardements, dont le corps est dans la rue avec une robe rouge, une sacoche. Il reste que ça d'elle, cette robe rouge, cette sacoche, et ça m'a touché. Donc du coup, je parle des cadavres de tout, mais que ce soit des cadavres ukrainiens, des cadavres gazaouis, des cadavres allemands de la guerre 40, et je leur donne, d'une certaine manière, la possibilité d'exister encore une fois. Et je les peins.
Waouh.
Mais je suis pas sûr que ce soit très vendeur.
Non, mais
c'est pas grave, je m'en fous.
Mais aussi, de toute façon, vous ne comptiez pas les vendre.
Non. Bah, en même temps, si vous voulez m'en acheter une, je la vends. Hein.
Ah, ouais, bah, ouais.
Mais comme j'arrête de bosser, il faut bien que je...
De toute façon, on a dit que je venais chez vous, non?
Oui.
Parce que comme les deux ans à venir, ça ne va pas être super.
Non.
Qu'il faut se préparer à tout. Ouais. J'ai plein de choses à apprendre.
Oui.
Les semis, les carottes, les marionnettes, la peinture.
Tu vas travailler, ma fille.
Ah oui, ça j'imagine. Ah, mais je veux bien,
oui.
Ouais, mais trouvez-moi une activité, puis je viens travailler.
Ah, bah, de l'activité, il y en a. Ouais, ça, il y en a. Oui, vraiment.
Avec plaisir, Bully Lanner. Merci pour cette conversation.
Bah, c'était bien gay. Voilà.
C'était fort gay, même, comment dis-je ?
On était fort gay. On a eu fort bon.
On a fini sur les cadavres, mais c'était fort gay quand même, parce que c'était avec Bully. Je rappelle Une affaire de principe, le film d'Antoine Rimbaud avec Thomas VDB et Céleste Brunkel, qu'on vous recommande chaleureusement, d'autant qu'il reste un petit peu de temps pour s'inscrire sur les listes et pour voter, parce qu'en France c'est comme ça, on s'inscrit sur les listes pour voter et de voter pour les européennes.
Oui, voter, ouais. C'est vraiment voter.
Allez,
voter,
bah oui.
S'il vous plaît.
Et voilà, c'était Bistroscopie. Ophélie Vivier en est la chargée de programme. François Audouin, le réalisateur. À la technique, Alexandra Bergel. Et au mixage, Rémi Sistiaga. À samedi prochain, 19h20. De 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son invité, c'est Frédéric Sigrist.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo, pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Voici Expression Directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par la CFE-CGC.
Maxime Legrand, bonjour. Vous êtes secrétaire national CFE-CGC et vous avez initié une étude sur le management et le télétravail intitulée Supermanagement. Pourquoi cette étude ?
On s'est aperçu qu'après le Covid et le passage au télétravail de grande ampleur, beaucoup d'études ont été faites pour mesurer les avantages et les inconvénients du télétravail, mais peu d'études, en revanche, ont pris l'angle managérial et donc se sont intéressées à comment les cadres ont vécu cette expérience grande échelle.
Quels sont les principaux enseignements de cette étude ?
Alors, les cadres et les encadrants, comme tous les autres salariés, ont bénéficié des avantages et des inconvénients du télétravail. Avantages, flexibilité, gain de temps pour la mobilité, des difficultés de surconnexion et de surcharge de travail. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des spécificités subies par les cadres, à savoir dans la relation managériale, il a fallu se réadapter pour manager différemment ces équipes, qui maintenant sont à distance. Et on voit qu'il n'y a plus qu'une seule forme d'organisation du travail, mais des formes multiples d'organisation du télétravail. Et le manager doit s'adapter, c'est-à-dire qu'il est plus que jamais un chef d'orchestre qui doit tenir compte des individualités pour que le collectif fonctionne.
On se rend compte que le télétravail pose parfois des questions par rapport à la confiance des managers envers leurs collaborateurs. Vous avez observé ce phénomène dans cette étude ?
Oui, concrètement, ça a été un résultat de l'étude, puisqu'environ 20% des répondants estiment travailler dans une organisation qui ne fait pas confiance à ses collaborateurs lorsqu'ils sont à distance. Et ça, c'est quelque chose qu'on mesure à tous les niveaux, entre senior manager et middle manager, les senior managers demandent de plus en plus de reporting. Ça a été une chose assez surprenante entre les salariés eux-mêmes, puisque ceux qui restent sur site se demandent si les télétravailleurs le font de façon efficace. Et puis, on s'aperçoit que donner de la confiance quand on est manager, ça vient pas de façon naturelle, c'est pas inné. Et en fait, ça entraîne les questions de formation. C'est pas parce qu'on est un bon expert qu'on devient un bon manager. Et donc, la CFE-CGC insiste sur le besoin de formation, donner les formations nécessaires à tous les managers.
Quelles problématiques spécifiques aux managers ont été observées dans cette étude ?
Un des constats que nous faisons aussi avec cette étude, c'est que ces transformations ont pesé sur les managers, ça a généré de l'usure que nous décelons à plusieurs niveaux. Un, parce qu'il a fallu réinventer son style managérial, et puis de l'usure parce que l'utilisation des écrans, la surconsommation d'écrans, je prends des exemples comme les Teams, ça nécessite plus de difficultés pour voir comment les gens que nous manageons réagissent, et donc ça s'est caractérisé par de la fatigue, par de l'usure et par du stress, bien sûr, et des difficultés aussi dans la surconnexion.
Quels sont les outils pour lutter contre cette surconnexion ?
Nous avons une loi en France qui a été votée en 2016, le droit à la déconnexion. Maintenant, il faut l'appliquer et la mettre en œuvre. Alors, comment faire ? On peut le faire par le dialogue social, on peut le mettre en mettant des choses très pratiques, soit on limite la possibilité d'envoyer des mails à partir d'une certaine heure. Je pense que quand même, on doit pouvoir laisser chacun libre de ses choix, et donc on n'empêchera jamais un manager d'envoyer un mail un peu tard le soir. En revanche, il faut bien préciser à tout le monde que lorsqu'on n'est pas dans les horaires de travail, on n'est pas obligé de répondre à son mail.
Et pour demain ?
Alors, je veux remettre la question dans un contexte plus global. Et pour demain, il faut que les comportements évoluent dans toutes les strates de l'entreprise. Ça part du CEO, du président-directeur général, car c'est quelqu'un, un homme ou une femme très influent. Ça impacte toutes les lignes managériales, ça donne du sens dans l'entreprise. D'autant plus que demain, il y aura des nouvelles formes d'organisation du travail. On parle de la semaine de 4 jours. Il y aura des nouveaux sujets à prendre en compte, des nouveaux enjeux, les questions de la RSE, l'intelligence artificielle qui arrive, des questions d'inclusion, des questions d'égalité homme-femme. Et donc, nos managers devront être formés et obtenir de nouvelles compétences. C'est pour cela que la CFE-CGC, nous plaçons l'humain au cœur de la négociation et le dialogue social doit être le premier outil pour accomplir cela.
Maxime Legrand, secrétaire national de la CFE-CGC, je vous remercie.
Merci à vous.
Retrouvez tous les résultats de cette étude sur le site cfecgc.org.
C'était Expression Directe avec ce soir la CFE-CGC. Bonne soirée sur France Inter, il est 20h.